Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour, merci d'avoir choisi Canal Académie. L'émission que vous allez entendre fait partie d'une série sur un même thème, celui du pardon, et elle se propose de vous faire partager les regards croisés d'académiciens ou d'invités qui sont historiens, hommes de religion, juristes, anthropologues, thérapeutes et qui, chacun dans leur discipline, ont quelque chose à nous dire sur le pardon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir dans cette émission d'accueillir le grand rabbin Haïm Korsia, que nos auditeurs connaissent bien puisqu'il anime l'émission Les mots de la Torah. Bonjour Haïm Korsia.
Bonjour.
Le pardon, si c'est un mot qui existe dans la religion juive, je suppose qu'on le rencontre extrêmement souvent dans la Torah.
Je dirais même que c'est la trame fondamentale de la Bible. De manière assez étonnante, il ne pourrait pas y avoir d'humanité sans pardon. Et on le voit apparaître de manière très claire. Quand Dieu crée le monde dans la Genèse, le nom de Dieu, c'est Elohim, qui veut dire le Dieu de justice. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas l'homme, Dieu crée un monde avec ses règles absolues. Dès que l'homme est créé, c'est le nom de Dieu qui incarne la bonté, la magnanimité. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'humanité sans magnanimité, c'est-à-dire sans capacité pour Dieu de pardonner, c'est-à-dire de remettre à plus tard et de laisser une chance à l'homme de se reconstruire après avoir échoué quelque chose. Et on le voit bien. Lorsqu'il y a un très beau texte, magnifique, qui explique que le premier jour, Adam est sur terre, et le premier jour, il voit le soleil, il est heureux, et il voit le soleil décliner. Il se dit, Dieu veut faire disparaître le monde. Et quand il voit le noir de la nuit, il se dit, Dieu m'a sanctionné. Et quand il voit repoindre de nouveau le soleil, il se dit, alors Dieu m'a pardonné. Et c'est la même chose qui se passe d'ailleurs dans les saisons. Vous savez que dans toutes les cultures, toutes les religions, les plus primitives aux plus évoluées, on trouve des grands moments religieux, ou païens, comme vous voulez, des moments en tout cas, autour du solstice d'hiver et d'été. Pourquoi ? L'hiver, ses caractéristiques, c'est le moment où les jours déclinent, et on a l'impression que c'est inexorable. C'est-à-dire qu'il y aura de moins en moins de jours et de plus en plus de nuits. Et au moment où ça bascule, il y a brusquement un tout, d'abord égalité, le lendemain, il y a la même chose que la veille, et puis le surlendemain, il y a un peu plus, alors on se dit, Dieu m'a pardonné. Et tout l'enjeu, finalement, de la Bible, c'est cette capacité que les hommes ont à fauter, parce que c'est dans nos gènes, parce que, comme le dit le psalmiste, quel est l'homme juste qui n'a jamais fauté ? Ça n'existe pas. Et en même temps, de garder la confiance de Dieu, la confiance en Dieu, par l'intermédiaire du pardon. Et donc, c'est pas un hasard si le grand moment de solennité du judaïsme s'appelle le grand pardon. En hébreu, Yom Kippour, pas exactement d'ailleurs le grand pardon en hébreu, c'est le jour du rachat.
Alors, quelle est la différence, justement ? Pourquoi on appelle ça le grand pardon ?
Il faut savoir qu'historiquement, ce grand pardon, c'est le jour, il suffit de calculer, hein, Moïse va sur le mont Sinaï à la Pentecôte, en gros, grosso modo début juin. Il arrive, il reste 40 jours, 40 nuits, il reste donc 40 jours. Ensuite, il redescend, il se rend compte qu'il y a le veau d'or. Ça chauffe pour le peuple, puisque Moïse brise les tables de la loi. Il règle son compte au peuple. Il remonte de nouveau 40 jours. Il redescend. Quand il obtient le pardon de Dieu pour les enfants d'Israël qui ont fauté pour le veau d'or, c'est le 10 du mois de Tishri. Autrement dit, c'est le jour du grand pardon.
Donc ça se calcule en fonction des dates,
voilà.
Du jour, de la Pâque, des fêtes d'après.
Tout est calculé. Pas calculé, c'est historique, c'est biblique. Donc c'est le premier jour du grand pardon, jour de Kippour. C'était le jour où Dieu a pardonné aux enfants d'Israël le veau d'or. C'est quand même terrifiant. Voilà un peuple. Et ça donne la mesure du pardon. Voilà un peuple qui voit les plus grands miracles possibles pour la sortie d'Égypte, qui entend au pied du mont Sinaï la parole de Dieu, et qui, dès que Moïse a le dos tourné, il fait un veau d'or. Et Dieu leur pardonne. Et ça montre la force du pardon.
Mais sur intercession, enfin sur demande de Moïse, il pardonne. Il faut qu'on lui demande tout de même. C'est-à-dire qu'il faut se repentir.
Alors,
c'est ça aussi. Ça ne va pas l'un sans l'autre.
Vous anticipez de quelques instants ce que je voulais préciser. C'est que la spécificité du pardon dans le judaïsme, c'est que ce n'est jamais un acte gratuit, au sens que ce n'est pas proche de la grâce. On avait parlé une fois ensemble dans les mots des religions. Ce n'est pas la grâce, c'est-à-dire un arbitraire de Dieu. Ça répond toujours à un appel de l'homme. Et voilà pourquoi le pardon se séquence en trois temps. Il y a d'abord le temps de la compréhension de ce qu'on a fait, le temps de la volonté de transformer nos actes, et le temps de transformer réellement nos actes. Avec un point supplémentaire, ça c'est quand on n'a pas observé une loi par rapport à Dieu, mais si on a blessé notre prochain, on peut demander tant qu'on veut pardon à Dieu, tant qu'on n'a pas demandé pardon à notre prochain, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que le lien entre l'autre, celui qu'on a blessé ou volé, ou je sais pas, traumatisé, peu importe, humilié, on a beau retisser autant de liens qu'on veut avec Dieu, si on n'a pas d'abord réglé notre problème avec notre prochain, le pardon n'est pas accepté. Et c'est important ça, parce que cette idée du pardon, c'est en fait une façon pour l'homme de se redresser. Je vais vous donner une image, si vous permettez. Quand quelqu'un est écrasé à terre, si vous ne le relevez pas, vos yeux sont tournés vers lui alors qu'il est à terre. Donc vos yeux sont tournés vers le bas. La seule façon pour vous retrouver, vous, votre statut debout, de dignité humaine, c'est de le relever. Quand vous le relevez, vous vous relevez vous-même, en fait, ça veut dire. Ça veut dire que l'idée du pardon, c'est une idée assez extraordinaire. Je ne suis pas mathématicien, mais je vais essayer de vous la définir en termes mathématiques. Imaginons que quand on fait une faute, moins 10 sur l'échelle de Richter
des fautes.
Il y a moins 10. Donc j'ai moins 10, j'ai fait une bêtise. Je demande pardon à Dieu. Et sincèrement, Dieu ne me remet pas à zéro. Dieu me remet à plus 10. C'est-à-dire qu'il fait passer mon moins 10 en valeur absolue. Il enlève le signe négatif, il me refait passer à plus 10. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu mesure l'intensité de nos efforts. Et d'une certaine manière, j'ai fait des efforts pour faire une faute. Ces efforts, si j'avais compris clairement ce que ça impliquait, je les aurais consacrés au bien. Alors Dieu, rétroactivement, me les consacre au bien. Et voilà pourquoi le Talmud dit, à l'endroit où quelqu'un qui a fait un retour se tient, aucun juste ne peut se tenir. C'est-à-dire que la force de celui qui revient de loin, et il y a un verset des proverbes qui dit « Shalom, shalom, la rachok velakarov, paix, paix, pour celui qui est loin et pour celui qui est près. » Et les commentateurs disent, vous voyez, Dieu va d'abord s'occuper de celui qui est loin. Donc celui qui est loin va se trouver en proximité avec Dieu avant celui qui est proche. Ça veut dire que le pardon, il est à la fois un acte que l'homme doit clairement manifester, il doit entrer dans un process de pardon, et en même temps, c'est quelque chose que Dieu est toujours prêt à nous accorder, parce que c'est sa vocation, parce qu'il est miséricordieux. Puisque dès qu'il y a eu l'homme, il y a eu la miséricorde.
Mais il n'a pas la même mesure que nous, justement. Il va pas... On a du mal à comprendre aussi cette mesure du pardon chez Dieu. Enfin, il va pardonner à celui qui est très loin, comme à celui qui aura fait une toute petite faute. Enfin, voilà, on ne peut pas mesurer cela.
Vous imaginez ce que ce serait s'il y avait une justice absolue, radicale, on fait une bêtise, paf, on paye. Plus
ça,
un seul être vivant
terrible,
ne serait
oui.
sur Terre. Il n'y aurait plus personne. Donc on est obligé de s'inscrire dans d'abord une sorte de... On vit tous à crédit de Dieu. Il nous dit, j'ai confiance en toi, je te laisse encore du temps pour revenir au pardon. Et le Talmud dit la chose suivante. Celui qui dit, je vais fauter, je vais me repentir, on ne lui laisse pas le temps de se repentir.
Ah non, ça c'est un calcul, alors on ne peut pas faire cela.
Mais
oui.
Certains disent, après tout, je peux faire ce que je veux, dans 6 mois il y a le grand pardon, j'effacerai tout, je prierai bien, je jeûnerai bien, je ferai un don aux œuvres, ça ne peut pas faire de mal, et après je me ferai pardonner. Ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit une démarche qui nous engage pleinement. Comme le pardon, dans notre vie, enfin je parle de la mienne, ma modeste petite vie, il m'est arrivé un peu trop souvent même, de demander pardon ou présenter des excuses à des gens, c'était de pure forme. J'en pensais pas un traître mot. Et je le faisais parce que dans les conventions sociales, il est de bon ton de dire que vous l'avez tous fait.
Bien sûr, on l'a tous fait.
Voilà. Et on en pensait. Je me souviens même, un jour, on m'a forcé à écrire une lettre d'excuse à un grand rabbin. Et je dois vous avouer que c'est la pire lettre d'insulte que je n'ai jamais écrite. Bon, par contre, avec Dieu, on ne peut pas tricher là-dessus. Parce que lui, il sait ce qui sonde nos reins et nos cœurs. Et donc, si on n'est pas dans une logique de pardon sincère, les simagrées, les gestes ne servent à rien. Et c'est ça l'idée fondamentale du pardon. C'est que c'est une transformation radicale de notre rapport aux autres, de notre rapport à Dieu, de notre rapport à nous. Donc ce n'est pas quelque chose d'anodin. Et quand je vous ai dit c'est la trame de toute la Bible, regardez comment ça se passe quand même. Cain et Abel, Cain tue 25% de l'humanité. tue son frère, ils sont quatre, il y a Adam et Ève, Cain et Abel, il tue son frère, il tue 25% de l'humanité d'un coup.
C'est un grand génocide, c'est
oui,
sûr.
Oui, c'est énorme. Ben, il se dit, ma faute est telle que je suis hors du monde.
Et il refuse de demander pardon, lui. Ben, il est dans le refus.
Quand Dieu... Mais le Midrash, c'est le commentaire allégorique de la Bible, raconte que quand Dieu lui demande « Où est ton frère ?» Il lui dit « Oh, je ne suis pas le gardien de mon frère. » Et Dieu lui dit « Les sangs de ton frère crient vers moi. » Il répond « Écoute, hein, si tu n'avais pas voulu ça, tu ne m'aurais pas laissé le faire.
» Donc il ne se sent pas responsable.
Il dit « Écoute, façon. Tu m'as laissé faire, c'est toi qui m'as poussé, voilà. Je ne suis que l'agent de Dieu. » Donc, alors qu'il avait oublié le combat qui était celui des hommes pour redéfinir le libre arbitre. Mais bon, que ce soit Cain, que ce soit ensuite... que ce soit Noé, que ce soit tous les grands moments de grande tristesse, de grande tragédie pour l'humanité, chaque fois, ils ont eu le sentiment que Dieu n'allait pas pouvoir leur pardonner, que c'était la fin. Et pourtant, il y a toujours le ressort de l'homme de savoir à un moment trouver le chemin vers Dieu. Les commentaires posent une question vraiment stupéfiante, surtout pour le judaïsme. Si je vous demandais quelle est la plus grande faute dans le judaïsme, vous répondrez ?
Ben c'est le blasphème, je suppose.
Oui, à peu près.
Nier Dieu, quoi, nier l'existence de Dieu.
L'idolâtrie. Pire des choses.
Adorer un autre Dieu.
Alors, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, c'est dans les 10 commandements.
Dieu argent, par exemple.
Oui, l'idole. L'idole. Principe du veau d'or, une idole. On voit dans la Bible un passage stupéfiant. C'est un moment dans l'étape des Hébreux où il y a des serpents brûlants qui viennent mordre les Hébreux et ils meurent. Et Dieu dit à Moïse, fais un serpent en airain. Et ce serpent en airain, mets-le au bout d'un pic et mets-le en haut, enfin mets-le en l'air, et quiconque le verra, même quand il sera mordu, il vivra. Je vous signale à toute chance utile que c'est le symbole du caducée des médecins. Le serpent enroulé autour du pieu, c'est ça.
La guérison, oui.
Les commentaires demandent, mais c'est de l'idolâtrie ça. Alors, il se trouve qu'après Moïse va faire fondre ce serpent pour pas que les gens l'idolâtrent. En fait, qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça voulait dire... Si les gens sont capables de trouver la force, juste la force, de redresser leur tête et de regarder vers le haut, et au-delà du serpent, de se tourner vers Dieu, alors même les morsures des serpents les plus venimeux qui soient ne seront rien. Parce que, comme le disait un maître du Talmud, ce n'est pas le serpent qui tue, c'est la faute qui tue. C'est-à-dire que l'homme écrasé par le sentiment de culpabilité envers Dieu a le sentiment que plus rien ne pourra le pardonner. C'est-à-dire que plus rien ne pourra le réinsérer dans le monde de la vie. Et la force du pardon, c'est ça. C'est de me dire, aussi loin que j'ai pu être, il suffit que je me tourne vers Dieu et je suis déjà face à lui. Et le seul à qui Dieu n'a pas laissé le temps dans la Bible de se faire pardonner, c'est le Pharaon en Égypte, ce qui est marqué dans l'Exode, Dieu endurcit son cœur. C'est-à-dire que ça aurait été trop facile pour lui de tuer, de massacrer cette population, de la servir, puis au moment où il sent que le vent tourne, il se repent. Oui, mais alors, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de justice. Et donc, Dieu va endurcir son cœur, ce qui est injuste finalement, parce que ça l'empêche de se... Mais ça veut dire que si pour lui, on annonce dans la Bible que ça a été fait, ça veut dire que Dieu n'endurcit le cœur de personne. Et comme le dit Ézéchiel, il s'agit que pour nous, le véritable pardon, c'est quoi ? C'est le prophète Ézéchiel qui dit « Et je changerai en cœur de chair vos cœurs de pierre ».
Le pardon, Haïm Korsia, on va en parler dans un instant. On va revenir à cette fête juive, le grand pardon. Je vous propose qu'on marque une courte pause et on se retrouve dans un court instant dans notre studio.
La bibliophilie est à l'honneur sur Canal Académie. En compagnie de notre bibliologue Bertrand Gallimard-Flavigny, vous découvrirez des ouvrages et manuscrits rares présentés avec esprit dans l'émission « Au fil des pages ». Le Bibliologue, une rubrique de Canal Académie, à écouter et télécharger sur canalacademie.com.
On retrouve Haïm Korsia dans le studio. Le grand rabbin, est-ce que vous pouvez nous expliquer donc quels sont les rites qui se pratiquent autour de cette fête du grand pardon ?
Bon, évidemment, c'est un jour de jeûne. Pendant 25 heures, on ne mange pas, on ne boit pas. On est trois quarts du temps à la synagogue, on a un rite de prière permanent, et je crois que c'est un moment où les gens se retrouvent surtout. En fait, le pardon se fait de manière collective, et c'est une forme assez extraordinaire de prière à Dieu. On dit à Dieu, tu vois, moi tout seul, jamais j'aurai l'outrecuidance de venir vers toi en te disant, allez mon Dieu, pardonne-moi encore une fois.
Mais tous ensemble ?
Mais écoute, regarde, on est tous ensemble. On a réussi au moins à faire l'unité entre nous. Et puis là-dedans, il y a peut-être des gens qui n'ont pas tellement fait de fautes. pour eux, pour les enfants qui n'ont pas fauté, pardonne-nous à nous tous, pour le fait qu'on ait réussi à, malgré nos divergences, à être ensemble. Et Dieu, finalement, nous le dit, même si vous n'êtes pas idéal avec moi, quand vous êtes ensemble, ça me touche tellement que je suis prêt à tout pardonner. Ça veut dire quoi, tout pardonner ? Je suis prêt à pardonner ce que vous me faites, si c'est pour que vous soyez ensemble. Et c'est une constante aussi de l'histoire biblique, où Dieu donne toujours le sentiment qu'il sera plus magnanime pour les fautes commises envers lui que les fautes commises des hommes envers eux. Quand un homme frappe un homme, Dieu est beaucoup plus sévère que quand un homme s'en prend à Dieu. Parce que s'en prend à Dieu, Dieu ça le touche pas. Alors qu'un homme qui s'en prend à l'homme, non seulement il touche un homme, mais il touche aussi Dieu. Parce qu'à travers le visage de l'homme, c'est le visage de Dieu qu'on cherche à effacer. Sauf qu'il est plus accessible chez l'autre que chez Dieu. Donc en fait, vous voyez, c'est une hiérarchisation des choses et donc des pardons qui est essentielle. Et on explique à Kippour qu'on ne peut pas entrer dans le jour de Kippour si on n'a pas demandé pardon à quelqu'un. Et ça va très loin, ça va très loin. Notamment, donc quelque chose qui m'a toujours beaucoup ému. Imaginons qu'on a vexé, blessé quelqu'un et qu'il meurt. Comment je fais pour lui demander pardon ? Les commentaires disent, on prend 10 personnes et on va sur la tombe de la personne. Et devant cette tombe, on demande pardon.
Il faut 10 témoins ?
Oui, parce que si ça a été fait en public, il faut que ça se fasse en public. Je peux vous dire que quand vous le faites une fois, vous n'oubliez jamais ce moment-là. Parce que vous pourrez dire que vous parlez devant une pierre, mais vous parlez devant beaucoup plus qu'une pierre. Et il est des pierres qui ont des âmes, et des âmes qui sont plus dures que la pierre. Mais là, en l'occurrence, c'est une pierre qui a une âme. Et peut-être qu'à travers la demande de pardon, c'est à soi-même qu'on s'adresse en se disant « Voilà, j'ai fait quelque chose qui n'avait pas sa légitimité, qui n'avait pas sa justification, et je regrette sincèrement, c'est-à-dire que si je pouvais revenir en arrière, je ne le ferais pas. » Et c'est simple, si je pouvais revenir en arrière, je ne le ferais pas. Pour Dieu, c'est comme si je ne l'avais pas fait. Et donc, il me bascule, vous voyez, de moins en plus.
Mais ça, vous nous parlez d'un pardon à titre individuel, c'est quelqu'un qui pardonne à quelqu'un d'autre, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort. Bon. Mais par exemple, au niveau des peuples, est-ce que Kippour est aussi le jour du pardon à un niveau plus collectif ?
Il y a une très belle histoire chassidique qui est rapportée dans le livre de Martin Buber, Célébration chassidique, que j'ai toujours trouvé magnifique. Ça raconte l'histoire d'une synagogue dans un shtetl en Pologne, et le rabbin de la synagogue a une sorte de transe et mystique. Et il se trouve entre le ciel et la terre et il voit que toutes les prières de sa communauté sont bloquées. Les portes du ciel pour sa communauté sont bloquées, fermées. Et il voit brusquement, du fin fond de sa synagogue, une prière extraordinaire qui arrive, qui perfore les portes du ciel. Et derrière ces portes du ciel ouvertes, toutes les prières de sa communauté peuvent entrer. Il réintègre son esprit, il va au fond de la synagogue et il dit au bonhomme qu'il a vu surgir du fin fond et pulvériser toute la volonté de ne pas écouter ses prières du ciel. Et il lui dit, mais écoute, je ne savais pas que tu étais un tel sage. Moi, Rabbi, un sage, pas du tout. Enfin, écoute, ne me raconte pas d'histoire. J'ai bien vu ce que j'ai vu. Il lui répond, Rabbi, je vais être franc avec vous. Je ne sais pas lire l'hébreu. Tout ce que j'ai appris, moi, je suis un frustre. Je ne suis pas très pratiquant, d'ailleurs, pour être honnête avec vous. Mais j'ai un qui pourra. Mais voilà, la seule chose que j'ai appris quand j'étais petit, c'était l'alef bet, c'est-à-dire l'alphabet. Alors, toute la journée, pendant que vous priez, vous, moi, je récite l'alphabet. A, B, C, D, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, l'alphabet. Et je dis à Dieu, mon Dieu, je ne sais pas faire des mots. Je te dis l'alphabet, je t'en supplie. Mets cette prière et ces lettres dans l'ordre que tu veux pour que ça fasse la prière que tu rêverais d'entendre. Et en fait, c'est une façon de dire, collectivement, il y a parfois des gestes surprenants d'une personne qui peuvent sauver toute une collectivité. Prenons un autre exemple. Je pense que, par exemple, pendant la dernière guerre mondiale, l'action des justes qui ont tout risqué, leur vie, leur famille, leur sérénité, leur tranquillité, pour tendre la main à un autre humain, c'est-à-dire pour sauver des juifs. Ceux-ci non seulement ont sauvé des âmes et des personnes, mais ils ont sauvé l'âme, en l'occurrence pour nous, l'âme de la France. Combien ils sont ? Actuellement, ils sont peut-être 2500, pas plus de 3000 pour l'instant en France. Probablement plus, parce qu'il y en a eu beaucoup de discrets.
Mais ce n'est pas le nombre qui compte.
Voilà, ce n'est pas le nombre qui compte. C'est que quand ce geste a été produit par une collectivité, c'est toute la collectivité qui en bénéficie. De la même façon, dans mon histoire, celui du fond est capable d'emmener avec lui toutes les prières de la communauté. Le pardon collectif n'est que la somme de toutes ces demandes de pardon qui sont intenses, profondes, légitimes chacune, mais qui arrivent ou n'arrivent pas à trouver, j'allais dire, l'oreille de Dieu. Bien sûr qu'on a toujours l'oreille de Dieu, mais en même temps, qui doivent se confronter à la réalité de nos gestes et de notre comportement. Et plus que les mots, ce qui compte, c'est le comportement. Et peut-être que dans l'humanité profonde que véhiculait ce brave homme du fin fond de la synagogue, il y a l'humanité profonde que chacun de nous est capable de porter et qui est donc capable de mettre au service de la collectivité. C'est ça. Le pardon collectif n'arrive que lorsqu'il est une combinaison de pardon individuel.
Est-ce que vous faites dans le judaïsme des différences entre justement le mot repentance et puis le mot réconciliation, pardon dans d'autres, avec d'autres nuances ?
Pardon, c'est réconciliation, forcément. Puisque, je vous l'expliquais tout à l'heure, il ne peut pas y avoir de demande de pardon et à Dieu et aux hommes s'il n'y a pas réconciliation. Réconciliation, c'est-à-dire je demande pardon et je prie de m'excuser, je répare. Réconciliation, c'est réparation aussi. Mais en même temps, ce pardon, une fois que j'ai été pardonné par Dieu, je me retrouve, comme le dirait le prophète Jérémie, je me souviens du temps jadis de notre jeunesse. Zachartila, Chesed, Nouraïr, c'est magnifique, un texte magnifique. Je me souviens du temps jadis de notre jeunesse, du temps de nos premiers amours. Viens derrière moi dans une terre non semée. C'est-à-dire quoi ? Viens dans une terre de toutes les potentialités. Après le pardon, on se retrouve aussi pur que l'enfant à naître. Donc, il y a la capacité de reconstruction d'une espérance. Le pardon, c'est ça. C'est, et je vais même aller plus loin. C'est peut-être le plus beau cadeau que Dieu nous fasse, à nous, de pouvoir accorder le pardon. Imaginez vous bagarrer avec quelqu'un. Qui n'a pas eu un mot malheureux avec quelqu'un ? Même quelqu'un que vous aimez beaucoup. Il suffit d'être marié pour savoir que...
Je ne vous le fais pas dire.
Voilà, on peut dire un mot malheureux, un truc, sans parler forcément de la belle-mère, mais on peut dire un mot malheureux, d'accord ? Si il n'y avait aucun moyen de dépasser cette acrimonie ponctuelle, on ne pourrait jamais vivre en groupe et encore moins en couple. Donc le pardon, c'est la capacité à dépasser cela.
Et donc à vivre ensemble.
Et donc à se réconcilier. Or, moi je pense que les seuls qui sont capables de se réconcilier sont ceux qui n'ont pas de problème avec eux-mêmes. C'est-à-dire quand le sentiment de culpabilité nous écrase, là on ne peut plus demander pardon. Parce qu'on a le sentiment que c'est tellement fort, tellement énorme ce qu'on a fait.
Ou ce qu'on a subi. Parce qu'il y a les deux côtés.
Exactement, vous avez raison. C'est un mécanisme d'ailleurs pervers. Dans le syndrome de Stockholm, par exemple, pour les otages qui sont gardés et qui deviennent proches de leur preneur d'otages, puisqu'ils adoptent la posture du dominant. Mais de manière générale, ça implique quand même de se retrouver soi-même. Et peut-être qu'on pourrait redéfinir une théorie qui irait de... Le pardon, c'est d'abord se réconcilier avec soi-même, puis se réconcilier avec les autres, puis seulement se réconcilier avec Dieu. Et ça irait dans les deux sens, puisque je me réconcilie avec Dieu parce que j'ai pu me réconcilier avec les autres, et je me réconcilie avec les autres parce que j'ai su comment dominer mon angoisse, mon sentiment de culpabilité par rapport à ce que j'ai pu faire.
Est-ce que dans la religion juive, il y a des hommes qui donnent le pardon ? Je veux dire, des prêtres comme qui pardonnent ? Est-ce que ça existe ? Voilà. Comment ça se passe, en fait, religieusement ?
De nos jours, non. Non, absolument non. Le pardon, c'est...
C'est l'homme individu par rapport à Dieu.
À Dieu.
Ça se passe directement.
On a un contact direct avec Dieu, point. Mais à l'époque, dans la Bible, il y avait les prêtres qui avaient la capacité, non pas à donner le pardon, mais à donner une parole de pardon. Par exemple, quelqu'un était atteint de telle ou telle chose, et le prêtre venait le voir et lui disait « Tu es pur ou tu es impur ?» « Tu es impur », ça voulait dire qu'il restait en dehors du camp, il restait 7 jours, tout un temps de purification. « Tu es pur, il n'y a pas de problème. » Une de ces atteintes était celle qui était consécutive à la médisance. Donc, quelqu'un qui médisait de son prochain était atteint d'une sorte d'affection de la peau, et on disait « Tu es impur ». Et donc, il se mettait en dehors du camp 7 jours, seul. Quelle était son espérance ? Son espérance était un mot du prêtre qui l'attendait pour que ce prêtre lui dise « Tu es pur, reviens ». Quelqu'un qui va médire sur les autres, c'est quelqu'un qui a une outrance de la parole. Et bien, face à l'outrance de la parole, on lui apprend l'importance d'un mot. Un mot qui peut intégrer ou donc sortir du groupe humain. En fait, le pardon, c'est une forme de redécouverte de l'importance de ce qu'on a oublié. La parole peut tuer, mais elle peut faire vivre. La parole peut blesser, mais elle peut aussi apaiser. La parole peut réconforter, elle peut inquiéter. La parole peut tout. Dieu a parlé, le monde a été. Donc la parole est essentielle. Or, nous sommes à l'image de Dieu. Donc si on est à l'image de Dieu, on peut aussi avoir cette parole créatrice ou cette parole destructrice. Donc l'idée d'une parole de pardon, elle existe, mais uniquement entre victime et coupable. Et à l'époque biblique avec le prêtre.
Est-ce que le pardon n'est pas intimement lié aussi à la mémoire, c'est-à-dire à l'oubli? Enfin, on pense évidemment que les Juifs en général essaient de justement qu'on n'oublie pas, donc ont des paroles pour qu'on se souvienne, ont des actions, des monuments pour tout ça, pour le souvenir. Comment se situe le pardon dans tous ces actes de mémorisation, de souvenir?
C'est pas que les Juifs qui ont une mémoire, on a une très bonne mémoire, mais disons que des monuments partout, mais vous l'avez dit d'ailleurs en français, probablement parce que vous êtes cultivé, mais ce sont les deux mots qui sont utilisés dans la Bible. Zachor al tishkar. Souviens-toi, n'oublie pas. Le commentaire demande la même chose. Pas du tout. Se souvenir, c'est le souvenir dans nos actes. En tirer une leçon. Ne pas oublier, c'est garder la mémoire, garder cette histoire, ce qui s'est passé. C'est valable pour tout. Pensez que nous célébrons encore aujourd'hui à Pâques, la sortie d'Égypte, Pâques, d'un événement qui a eu lieu il y a plus de 3500 ans.
Donc là, on se souvient, on est dans la mémoire.
On est dans la mémoire, et ça se fait tous les ans. Tous les ans, on se conduit comme si nous-mêmes, on sortait d'Égypte. C'est-à-dire comme si nous étions esclaves en Égypte, et au cours d'un repas, du repas pascal, on va vivre littéralement la sortie d'Égypte. Ça veut dire que cette mémoire est devenue une mémoire active. Parce que sortir d'Égypte, c'est pas uniquement sortir d'un territoire qui s'appelle Égypte, c'est sortir de notre propre Égypte. Donc c'est une histoire où on fait pas de la mémoire, on commémore pas, on se remémore. Commémorer, c'est voilà, bim boum, présenter arme. Enfin, moi qui suis militaire, je vois bien ce que ça veut dire. C'est très beau d'ailleurs, c'est important. Enfin, la commémoration de Cameroun, c'est quelque chose de pas mal aussi, et il y a d'autres commémorations très intéressantes. Se remémorer, c'est revivre. Et peut-être que le plus beau cadeau que Dieu ait fait à l'homme, c'est l'oubli, c'est-à-dire l'oubli des souffrances. Mais on doit lutter pour ne pas oublier ce qui est essentiel. Parce que l'oubli, c'est massif. Et on doit lutter pour ne pas oublier ce qui est essentiel. Et les hommes qui ont une profondeur dans l'histoire sont ceux qui sont capables de se projeter vraiment dans le présent et dans l'avenir. Et de ce point de vue-là, on a montré qu'on avait une immense profondeur puisque on est bercé par cette idée « souviens-toi, n'oublie pas ».
Haïm Korsia, encore un petit mot avant de nous quitter peut-être. Est-ce qu'il y a des rites particuliers au judaïsme autour de celui qui va mourir?
C'est
vous tombez vaste juste. Sujet.
Non, oui, évidemment. C'est... D'abord, les gens s'entourent. On aide le mourant à demander pardon à Dieu. Ceux qui sont là lui demandent pardon. Et la chose très émouvante, c'est qu'une fois que la personne est mise dans le cercueil, les gens autour se demandent pardon les uns les autres, mais une fois que la personne est mise dans le cercueil, ses proches viennent et lui demandent pardon. J'ai vu les gens les plus solides. Dans ce moment d'isolement, moi je tenais toujours à ce que les gens rentrent seuls, un par un. Parce que dans une famille, chacun a un lien particulier avec la personne, facile ou difficile. Et à ce moment-là, on peut peu tricher. On peut tricher, mais relativement peu. C'est-à-dire qu'on peut toujours faire bonne figure, mais si vous n'avez jamais aimé la personne qui est là, vous vous dites que c'est un instant où la vérité est perçue par des forces que vous ne maîtrisez pas. Et autant vous pouvez mentir à une personne, mais à une âme que vous sentez présente, vous ne pouvez pas mentir. Et donc, c'est une cérémonie très émouvante. Et peut-être que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à ceux qui partent, c'est de partir sans mensonge. Et le pardon, c'est ça. Le pardon, c'est le symbole, l'image d'un monde sans mensonge. Parce que la faute, c'est le mensonge. Et c'est bien ce qu'a fait le serpent. Quand il a instillé la faute dans le monde, il a menti, il a instillé la faute, il a donc permis le pardon, d'une certaine manière. Donc si...
Bienheureuse faute, comme disait Pascal.
Voilà, mais si on retrouve avec le pardon le monde antérieur, on a donc un monde sans mensonge. C'est peut-être ça.
C'est sur ces paroles de Haïm Korsia, grand rabbin, aumônier militaire des armées françaises, que nous allons nous quitter. Merci Haïm Korsia. On vous retrouve dans d'autres émissions de Canal Académie. Les mots des religions, les mots de la Torah tout particulièrement. À bientôt.
Au revoir.